Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Attaque des ZDF ce week-end à Kandoy et Bandiboli, territoire du Rumo en Ituri. Bilan, plus de 20 morts, des disparus et des maisons incendiées. C'est ce que rapporte le député national Jackson Aoussé, élu du Rumo. Pour lui, c'est inexplicable que ce coin du pays continue à enregistrer des morts plus d'une année après l'installation de l'état de siège. Sud Kivu, plus question d'exiger l'expérience professionnelle. Les jeunes fraîchement sortis de l'université peuvent désormais intégrer la fonction publique. Un édit a été voté dans ce sens le vendredi par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Il sera transmis au gouverneur de province pour promulgation. Et puis, le manque des toilettes publiques à Bukavu ne facilite pas le bien-être des femmes. Constat de l'ASBEL, cordon des femmes chrétiennes pour l'équilibre des ménages, genre en action. Cette ONG a fait un plaidoyer aux autorités de la ville. Pour en parler, nous recevons Astrid Mujinga, coordonnatrice de cette ASBEL. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Le député national Jackson Aoussé dénonce des attaques des ZDF perpétrées vendredi et samedi dans les villages de Kandoy et Bandiboli sur la nationale numéro 4, axe Komanda Kisangani. Bilan, plus de 20 personnes mortes, plusieurs autres disparues et des dizaines de maisons incendiées. Selon cet élu du territoire d'Irumu, il est inexplicable que cette partie de l'Ituri continue à enregistrer des morts plus d'une année après l'installation de l'état de siège. Il interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. L'armée de son côté rassure que des dispositions sont prises pour sécuriser la population. Le récit de Martial Kizabiamungu.
La première attaque de ZDF a eu lieu à Kandoy dans la nuit du vendredi où environ 10 civils fuyaient l'incursion. Des rebelles ont été tués et plusieurs autres sont portés disparus. Samedi, les mêmes rebelles ont attaqué les villages voisins de Bandiboli. Ici, une dizaine de personnes ont été tuées par ces malfrats, indique des rescapés. Face à ces tables sombres, le député national Jackson Aoussé s'est dit très consterné. Il appelle les autorités à mettre en place un mécanisme de riposte à ces attaques pour épargner les vies.
Nous interpellons les autorités nationales de sécuriser la population. L'ennemi est identifié. Tout simplement, un mécanisme de la protection, de riposte, d'anticipation doit être mis à contribution.
L'armée appelle la population à lui faire confiance car selon elle, les forces loyalistes sont à la poursuite de l'ennemi qui opérerait avec la complicité de certains civils dans la région. Lilitina Gilingongo, son porte-parole à Ituri.
Les forces armées sont sur place. Il y a un déploiement considérable pour poursuivre ces terroristes et le mettre hors d'état de nuire.
C'est dimanche matin, les trafics sur la route nationale numéro 4, Komanda Mambasa, étaient toujours suspendus. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et face à ces derniers massacres en Ituri, la coordination provinciale de la société civile Force Vive s'est dit très peinée par ces morts des civils enregistrés pendant qu'une petite accalmie s'observait déjà dans le territoire de Djougou et d'Irumu. Dans une communication à la presse ce dimanche, cette structure fait allusion aux tueries il y a 2 jours de 22 personnes par la milice Zaïre et plus de 10 morts à Kandoy et Bandiboli. La première attaque a eu lieu à Dala. La coordination provinciale de la société civile Force Vive demande aux autorités de l'état de siège de tout faire pour stopper ces massacres de trop en Ituri. Son coordonnateur Dieudonné Lossa est au micro de Martial Kiza.
La société civile de l'Ituri demande aux autorités de l'état de siège de s'impliquer pour arrêter tous ces gens-là qui ont massacré la population civile, de tout faire pour mettre fin avec l'existence de ADF Nalu dans le territoire congolais, parce que ADF ce sont des rebelles ougandais, ils doivent quitter le sol congolais. Il a été dit d'ailleurs lors du sommet des chefs de l'État de Nairobi que tous les groupes armés commencent à discuter avec leur gouvernement, ce qui nous ne comprenons pas. ADF Nalu continue à opérer sur le territoire congolais et l'Ouganda croise les bras devant cette situation. Nous demandons à ce que rapidement des actions de grande envergure soient menées contre ces groupes armés et que l'État congolais s'assume, donne les moyens nécessaires aux forces armées congolaises, les FADC, afin de mettre hors d'état de nuire tous ces bandits qui circulent avec les armes ça et là.
Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri qualifie ce massacre des civils de lâcheté de la part des auteurs. Le lieutenant Jules Ngongo demande aux miliciens de Zaïre de déposer les armes et de s'inscrire au processus de paix comme l'ont fait déjà d'autres groupes armés à l'instar de la CODECO et FPIC. Et à propos du dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur l'appui du Rwanda au M23, le député provincial élu de Rutshuru au Nord Kivu demande des sanctions contre le Rwanda pour le député Bonaventure Chérimpoué. En plus de la dénonciation, la communauté internationale devrait aussi imposer diverses sanctions contre le régime de Kigali pour ce qu'il qualifie d'agression de la RDC par le Rwanda. Bonaventure Chérimpoué le dit au micro de Radio Kapi.
Nous nous réjouissons d'abord de ce rapport qui dénonce l'implication du Rwanda aux côtés des rebelles des M23. Mais je n'ai pas allé quelque part où les rapports condamnent. En fait, ce que nous voulons, c'est qu'on aille au-delà de la dénonciation, que le Christian des Nations Unies, qu'il condamne fermement cette implication du Rwanda aux côtés des rebelles du M23. Et au-delà des condamnations, qu'on impose des sanctions exemplaires au régime de Kigali. Parce que ce n'est pas tout l'État qui va continuer à se moquer des Congolais. Depuis la rébellion de l'AFDL, du RCD, de SNDP, la rébellion de M23, le Rwanda n'a jamais accepté qu'il y combat côté des rebelles qu'ils ont toujours appuyé. Et donc nous voulons du secrétaire général des Nations Unies et de la communauté internationale dans l'ensemble qu'ils puissent condamner fermement cette agression du Rwanda. Parce que quand ils entrent chez nous aux côtés des rebelles, c'est une agression, qu'ils puissent prendre des sanctions sévères, imposables au régime de Kigali.
La gouverneure du Lualaba dit reconnaître quelques dérapages de certains éléments des services de sécurité lors de l'opération Zéro Délinquant. Fifi Masuka l'a dit au cours d'une conférence de presse samedi à Kolwezi. Elle dit suivre de près la situation et affirme que les personnes impliquées dans les incidents liés à la traque des délinquants répondront de leurs actes devant la justice. Pour rappel, l'opération Zéro Délinquant à Kolwezi a fait 3 morts et la police est accusée d'avoir utilisé la brutalité. Je vous le disais en titre, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a voté un édit portant statut des agents de carrière des services publics dans la province et dans des entités territoriales décentralisées. C'était au cours de la session extraordinaire du vendredi 5 août à Bukavu. Selon les initiateurs de cet édit, il ne sera plus question d'exiger l'expérience professionnelle pour entrer dans la fonction publique. Désormais, les jeunes fraîchement sortis de l'université ont l'occasion d'intégrer la fonction publique. Le député Bissi Mouabatan dit Frédéric, président de la commission mixte politique, administrative, judiciaire et droits humains, qui a travaillé sur cet édit et nous en dit plus dans cet extrait choisi par Rachel Kissé.
Cet édit, son contenu est essentiellement axé sur l'organisation du personnel des services publics liés à la province et des services publics des ETD. Il devra organiser l'emploi du personnel dès le début jusqu'à la fin. Et comme vous le savez, tout emploi commence normalement par les recrutements jusqu'à la fin des carrières. C'est une bonne nouvelle pour la province du Sud Kivu. La province du Sud Kivu n'avait aucun instrument qui organisait l'emploi ou les personnels attaché directement à l'administration provinciale ni aux services provinciaux. C'est que désormais, tous les agents de la province, tous les agents des ETD seront mécanisés. Ils auront des numéros matricules, ils seront sécurisés dans leur emploi. On devra respecter et suivre les normes liées à l'exercice de la fonction publique en province du Sud Kivu. Par rapport à l'entrée dans la fonction publique provinciale et locale, nous avons clairement interdit les recours à l'expérience professionnelle. Tous les Congolais du Sud Kivu seront éligibles et cela sans discrimination.
Signalons que l'édit sera transmis au gouverneur du Sud Kivu pour promulgation. Si rien n'est fait, 15 jours après la transmission des textes, l'édit sera d'office promulgué et entrera en vigueur 3 mois après. Direction la province du Maniema, nommée le 20 juillet dernier par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire comme président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU Maniema, le professeur Patrick Mobambo, recteur de l'université de Kindu, a procédé à la remise et reprise avec le président sortant, le professeur Expedi Kabungama, directeur général de l'ISP Kindu. Le professeur, donc ce dernier, a dirigé la conférence des chefs d'établissement de l'ESU Maniema pendant 5 ans. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu vendredi dernier au site Luama 1 en présence de tous les membres du comité sortant. Florence Kiza.
Devant ses hôtes, le président entre, professeur Patrick Mobambo, a promis faire de l'assurance qualité son cheval de bataille.
Je ne serai pas le président figurant, je serai le président actif en fonction des textes. Parce que je ne voudrais pas que chez nous ici, nous faisons des choses de manière correcte, mais que ailleurs, ce n'est pas la même chose.
Les sortants, lui, l'exhortent à être rassembleur. Professeur Expedi Kabungama dit être disposé avec son expertise à accompagner les nouveaux présidents.
Le conseil que je lui prodigue, c'est celui d'être rassembleur, de fournir un effort pour réunir toujours tous les chefs d'établissement pour traiter des questions importantes concernant la conférence. Le grand défi qu'il attend, c'est celui d'obtenir la connexion Internet pour la conférence et une plus grande collaboration avec d'autres conférences provinciales.
Signalons que le mandat du professeur Patrick Mobambo est d'une année. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Province de l'Omami, signalons la remise vendredi à Cabinda d'un lot important d'intrants médicaux, dont du partenaire Pat United à 7 structures sanitaires de la division provinciale de la santé. La cérémonie de remise a été présidée par le gouverneur de province. D'après le représentant du partenaire Pat United, ce matériel va contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population de l'Omami dans la lutte contre les détresses respiratoires. Docteur Emery Ngoudoua, chef de bureau suivi et évaluation, a au cours de cette cérémonie demandé à l'autorité provinciale d'assurer le transport de ce matériel dans les zones de santé rurales bénéficiaires de cette dotation. Docteur Emery Ngoudoua s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de l'Omami.
Le matériel que nous vous dotons aujourd'hui, c'est pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population de l'Omami dans la lutte contre le détresse respiratoire. Et ces matériels sont constitués essentiellement de 32 concentrateurs d'oxygène, de 30 oxymètres de pouls, de plus de 1700 masques faciales et de plus de 9000 lunettes nasales, que nous appelons également des canules. Il faut dire que la porte d'entrée de ces matériels était la COVID-19, mais aujourd'hui, il n'y a pas que la COVID-19 qui entraîne les détresses respiratoires. Vous avez des maladies telles que l'asthme, les pneumonies qui provoquent aussi les détresses respiratoires. Nous pensons que ces matériels pourront également aider pour la prise en charge de toutes ces malades. Tout ce que nous pouvons demander à votre Excellence, c'est d'assurer à bon père de famille l'acheminement de tous ces matériels jusqu'au site indiqué pour l'intérêt de notre population. Nous allons en plus demander à la division provinciale de la santé, à travers les EPP, qui sont les encadreurs provinciaux et polyvalents, d'assurer un suivi de l'utilisation effective de ces matériels là où ils seront dotés.
Retour au Nord Kivu. Le Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, CREDA ULPSGL, a organisé depuis hier et ce dimanche une formation de 2 jours sur l'encadrement des jeunes rapporteurs des objectifs de développement durable. C'est en rapport avec l'utilisation interactive des données du développement et de pacification de la province du Nord Kivu, une stratégie qui rentre dans le cadre de suivi des interventions des partenaires et les objectifs de développement durable dans la province. Reportage de Mathieu Ilunga.
Le premier défi de ce technicien français de 46 ans est celui de qualifier la RDC à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC est classée dans le groupe I avec les Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Après 2 journées, les Congolais occupent la dernière place avec 0 points et 2 buts encaissés. Et ce groupe reste dominé par la Mauritanie, 4 points, ex aequo avec les Gabon, alors que le Soudan, 3 points, occupe la 3e place. Avant le départ de la RDC, Sébastien Desabre a entraîné plusieurs clubs africains, dont Pyramide d'Égypte, de Casablanca du Maroc et l'équipe nationale ougandaise de football. Il succède ainsi à l'Argentin Hector Cooper qui a vu son contrat avec le gouvernement congolais être résilié en juillet dernier, faute de résultats. Le technicien argentin dont le contrat courait jusqu'en mai 2023 n'a pas pu qualifier la RDC pour les mondiales Qatar 2022. Aussi, les résultats catastrophiques lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 ont précipité son départ.
Toutes nos excuses, là c'était plutôt le sport, avec Blaise Ndongala Mayanda, il vient de nous parler du nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC, le français Sébastien Desabre. La Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA, a dévoilé son nom au cours de sa réunion tenue samedi 6 août à Kinshasa. Retournons au Nord Kivu, où nous parlions du Centre des recherches sur la démocratie et le développement en Afrique, qui a organisé depuis hier une formation des 2 jours sur l'encadrement des jeunes rapporteurs des objectifs de développement durable. C'est un reportage de Mathieu Ilunga.
Ces jeunes rapporteurs des objectifs du développement durable réunissent régulièrement les jeunes des différents quartiers de la ville pour leur apprendre le pratique dite de la citoyenneté responsable. Voilà pourquoi ils sont assujettis à bénéficier de cette formation. Leur mission est délicate, celle de travailler pour le progrès et le développement de la jeunesse dans la province, et cela avec l'appui de tous. Selon Cosma Sembe, chef de bureau au plan, pour y arriver, il faut avoir une base de données en ligne que les partenaires doivent collecter et exploiter, c'est-à-dire les géraudes, les agences des Nations Unies, les organisations internationales et locales, l'AFEC, quelques services de l'administration publique et autres. Ils apprennent différents outils tels que plan de travail roulant, le plan de travail annuel et les fiches techniques qui constituent l'objectif d'analyse pour que le jeune rapporteur puisse se familiariser avec ces outils. En dehors de cette formation, le centre travaille déjà en partenariat avec les associations et ONG qui œuvrent dans la consolidation de la paix, le leadership, la médiation et la résolution des conflits. Goma, Mathieu Ilunga Chambuyo Monachebe, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement malien va intégrer dans son armée 26 000 combattants d'une ancienne rébellion du nord du pays, ce conformément à un accord conclu avec les dirigeants de l'ancien mouvement indépendantiste, ont annoncé les deux parties à l'issue d'une réunion vendredi. L'accord indique qu'une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre bloquée d'un accord de réconciliation signé il y a plusieurs années. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier avoir accordé sa grâce à son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo sous le coup d'une peine de 20 ans de prison dans son pays à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Laurent Gbagbo était en prison à la CPI à La Haye.
L'invité.
L'égalité entre l'homme et la femme devrait aussi passer par l'installation des toilettes publiques dans nos villes. Le manque des toilettes publiques ne facilite pas le bien-être des femmes. Constat de l'ASBEL, cordon des femmes chrétiennes pour l'équilibre des ménages genre en action. Selon cette structure, cette situation amène les femmes à faire face à l'insécurité et le manque de pudeur, ce qui justifie la tenue cette semaine à Bukavu d'un atelier de plaidoyer aux autorités urbaines de la ville. Astrid Mujinga, coordonnatrice de cette ASBEL, s'entretient à ce sujet avec Rachel Kessé.
Astrid Mujinga, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Accessibilité, hygiène et assainissement des toilettes, que visez-vous par l'organisation de cet atelier?
Nous avons voulu faire une restitution d'un grand atelier auquel nous avons été participer à Londres dans le cadre du projet Just Sanitation. Le constat est parti du fait que dans la plupart de nos grandes villes africaines, on plaide pour l'égalité des femmes, des hommes, sur beaucoup de plans, mais on néglige quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire l'installation de toilettes publiques à travers ces villes. Et on voit très bien que le manque de ces toilettes publiques a comme conséquence l'insécurité, le manque de pudeur pour les femmes. Donc ce sont les femmes qui sont les plus grandes victimes quand les toilettes publiques manquent dans une ville. Voilà pourquoi nous avons organisé cet atelier comme une sorte de lobbying, comme une sorte de plaidoyer.
Qu'en est-il ici au sud Kivu? Quel est le constat ou l'état des lieux des toilettes publiques ici dans notre ville de Bukavu?
Le constat est amer parce que quand nous prenons seulement en considération notre commune d'Ibanda, il n'existe presque pas des toilettes publiques. Il y en a quelques-unes, deux ou trois au niveau des marchés. Et même à ce niveau-là, ces toilettes sont très 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 mal entretenues parce que il manque d'eau, les fosses septiques sont remplies, on ne sait pas comment les déboucher. Alors, les plus grandes victimes là-bas, ce sont les femmes parce que quand les toilettes sont très mal entretenues, les femmes sont sujettes aux maladies urinaires, ce qui n'est pas souvent le cas pour les hommes. Donc, on voit très très bien qu'il y a une grande injustice, une grande d'inégalité dans ce domaine-là quand les toilettes publiques manquent.
Et donc, vous avez fait appel à la mairie, vous avez fait appel aux chefs des quartiers, d'avenues, même aux responsables des marchés dans cette commune. Quelles sont les recommandations assorties au cours de cet atelier?
Il y a eu plusieurs recommandations. Faire, disons, un plaidoyer auprès des grands décideurs publics comme privé, entre autres au gouverneur, au maire de la ville et au bourgmestre. Le bourgmestre nous a dit une fois que bon voilà, ils ont bien entendu besoin d'installer des toilettes publiques, mais avec les constructions anarchiques, il reste très peu d'endroits à travers cette ville où on peut construire des toilettes publiques, mais que cela est un défi qu'ils vont pouvoir relever. Il a dit justement qu'il va faire rapport à son supérieur hiérarchique, qui est en fait le maire de la ville, et aussi le gouverneur de province. Parmi les recommandations, il a été demandé justement que les quelques toilettes qui sont là, comme au niveau des marchés, qu'elles soient vraiment très, très bien entretenues, qu'on crée des comités de gestion de ces toilettes-là pour qu'elles soient assainies de façon permanente. Comme on dit toujours que c'est l'eau qui manque, qu'on installe des tanks-là qui peuvent, par exemple, recueillir les eaux de pluie au cas où il n'y a pas d'eau de robinet au marché. Ces tanks-là peuvent servir dans ces toilettes pour que les femmes soient mises à l'abri de tout ce qu'elles peuvent avoir comme maladies, des voies urinaires auxquelles les hommes ne sont pas souvent soumis. On a aussi demandé à l'État de pouvoir installer quand même des lois pouvant empêcher justement les gens de faire des besoins partout, parce que cela aussi fait partie de la pollution de la ville.
Hormis l'action de ce plaidoyer, y a-t-il des actions concrètes que votre ASBL pose sur terrain pour pallier un peu à cette situation?
On ne dirait pas qu'on les a à part cette sensibilisation, ces plaidoyers, parce qu'il faut des moyens pour tout cela. Les actions que nous menons, c'est de travailler avec vous de la presse pour que vous pouvez relayer cette information. Et ils comprendront quand même que c'est un cas qui se pose. Parce que ce projet a, bien sûr, une perspective pédagogique comparative. On compare notre ville aux villes qui nous environnent. On trouve que les toilettes publiques sont là, avec de l'eau en permanence, du savon. Mais pourquoi pas nous? Cela montre justement que ça dépend de la bonne volonté et de la politique de ceux-là qui nous dirigent.
Astrid Monginga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste, de vous être déplacée jusqu'ici. Merci beaucoup.
Voilà, c'était là notre invitée, la coordonnatrice de l'ASBL Cordon des femmes chrétiennes pour l'équilibre des ménages genre en action. Elle s'entretenait depuis Bukavu avec Rachel Kiesé. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rungmouchinj, coordination de Piero et la Meji, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.